sur Blueprint.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, le podcast de jeux vidéo avec Yann Rieder, c'est moi, et avec Lou Lassina Foubert. Salut Lou, comment ça va ?
Mais c'est moi, je m'écoute, ça va bien, ça va très bien, et toi comment ça va?
Écoute, tranquille, plus tranquille que toi, t'étais en stream juste avant qu'on commence.
Ben oui, j'ai ramené des petits raiders comme ça, j'étais en stream sur There Is No Game, et justement j'en parlerai dans l'after show, parce que donc c'est un cadeau de Kassim, un cadeau de Noël de Kassim, donc merci déjà Kassim. Et ce jeu, waouh, c'est une vraie belle claque. Et il intègre vraiment sans aucun souci mon top 10 des jeux de l'année dernière. Donc c'est important d'en parler.
Alors oui. Il faudrait que je le fasse.
Mais vraiment c'est brillant, c'est brillantissime. C'est un des meilleurs point and click que j'ai jamais vu.
Ok, ça m'intéresse. J'ai hâte d'entendre ton avis déjà dans l'after show. Avant l'after show, ceci dit, et au sommaire de cet épisode, nous allons évidemment parler de l'actualité avec Vicarious Vision, avec le Xbox Live Gold, mais aussi avec Animal Crossing New Horizons et avec Snowtopia. Beaucoup de choses au menu. Le tu veux pas, des prochains jeux, le courrier. Mais tout d'abord, on va parler de Scott Pilgrim vs. The World, The Game, Complete Edition. Et derrière ce titre à rallonge se cache la nouvelle version d'un jeu qui a désormais une petite dizaine d'années. Donc, attaquons un petit peu notre ami Scott Pilgrim, en tout cas discursivement, si tu le veux bien. Il se fait attaquer, et globalement, au début du jeu, c'est plus ce qui lui arrive que l'inverse. C'est un peu moins lui qui attaque les autres, et c'est lui qui se prend plein de nions. Et vu qu'on parle de nions, question Lou, de quel genre de jeu s'agit-il, au-delà évidemment d'une adaptation d'un film et d'un comics à succès?
Alors c'est un beat'em up, comme on doit dire correctement, et non pas un beat'em all. Je rigolais parce que je me suis fait la remarque, beat'em all c'est un nom français qu'on a inventé qui ne veut pas dire grand chose en anglais, c'est frapper les tous, mais enfin c'est beat up someone. Donc beat'em up si on veut être correct, mais comme moi j'ai grandi avec la notion beat'em all, c'est plus difficile. Mais d'ailleurs c'est rigolo que ce soit ce genre de jeu, parce que tu disais il se fait coller des nions et tout, mais j'adore le principe du jeu qui te dit allez, tu es à Toronto, qu'est-ce que tu fais? Tu frappes tous les gens dans la rue, et du coup ça fait paraître tous ces jeux rétro, les Street of Rage comme ça, où littéralement tu castagnes tous les passants. ça permet d'interroger en fait ce genre de jeu. Tu dis mais vraiment pourquoi tant de violence gratuite avec des gens qui passent dans la rue simplement.
Ceci dit, je suis pas 100% d'accord avec toi, parce que tu vois dans le décor quand même deux ou trois personnages, il y en a peu, c'est clairement pas la majorité des passants que tu croises, mais qui se tiennent simplement de côté, qui sourient.
Il est vrai qu'il y a des PNJ pacifistes qui sont là et qui ont un petit peu peur de voir cette personne qui frappe absolument tous les gens qui passent.
Tout ça pour aller déjà dans le jeu et dans le film et dans la série, l'idée est un petit peu, c'est Scott Pilgrim qui va aller battre tous les anciens ex de son actuelle future copine Ramona Flowers. Et en même temps... tu peux jouer d'autres personnages. Donc tout d'un coup, tu es cet autre personnage qui va aller te battre simplement pour que ton pote puisse sortir avec cette meuf, ce qui est quand même assez curieux.
C'est bizarre. Sur le principe, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, et j'en reparlerai après. Mais c'est jamais vraiment expliqué, peut-être dans le comic, peut-être plus clair, de pourquoi faut-il buter les sept ex démoniaques de Ramona, à part le parce que. En même temps, c'est ça qui est drôle, mais c'est vrai que du coup, suspension d'incrédulité rapide.
Visiblement, c'est une nécessité pour pouvoir sortir avec elle, et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, si tu ne viens pas à la Gardère viendra à toi. C'est un petit peu, si tu vas pas aux ex de Ramona, les ex de Ramona viendront à toi.
Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs plutôt.
Oui, effectivement. Bon, à ce jeu, combien de temps est-ce que tu y as joué, Lou?
Alors, à l'époque, je l'avais fait en entier, quand il était sorti il y a 10 ans. Là, j'ai dû y rejouer, 1h30, 2h, quoi. J'ai pas beaucoup insisté, parce qu'on retrouve vite, en fait, finalement, le
feeling,
les travers de l'époque, voilà, puis on retrouve vite les sensations. Enfin, disons qu'on perd pas nos petits, c'est pas non plus une refonte du tout, c'est le même jeu avec les DLC.
Oui. C'est le même jeu avec les. Alors, c'est strictement le même jeu avec les DLC, d'ailleurs, on y reviendra plus tard. J'y ai joué autour de 4 heures, ce qui a été suffisant pour pouvoir battre l'histoire principale, faire la plupart des niveaux. Il y a un niveau alternatif que j'ai pas fait, mais au-delà de ça, j'ai terminé, d'ailleurs c'est le premier jeu que j'ai terminé en 2021, le second étant Trover Saves the Universe sur PS4 que j'ai battu cette semaine. Donc oui, j'ai eu l'occasion de voir la fin. Bon, Quand ce jeu, quand ce remake a été annoncé, et surtout quand il est sorti là tout récemment, on a vu émerger sur les réseaux sociaux, parmi les professionnels de la critique du jeu vidéo, n'est-ce pas, des opinions très tranchées entre ceux qui le considèrent plus ou moins comme un chef-d'œuvre et ceux qui le considèrent comme un jeu assez mal équilibré. Où est-ce que toi tu le places ?
Alors moi je l'aime bien, c'est un jeu que j'aime bien, que j'avais vraiment beaucoup aimé et auquel j'avais beaucoup joué à l'époque, en coop, parce que c'est vraiment le genre de jeu, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est un peu, tu débranches ton cerveau quelque part, et tu castagnes, enfin pas exactement comme les jeux Lego, parce que les jeux Lego c'est un peu plus facile, tu meurs pas aussi aussi souvent, surtout au début quand t'as pas beaucoup de niveaux, mais voilà, je trouvais qu'il a un côté très très agréable en multi, en étant conscient un petit peu de ses limites. Le côté chef d'œuvre, je pense qu'il est à prendre plutôt au sens de la direction artistique, qui est vraiment très bien réussie, que ce soit le pixel art de Paul Robertson, si je dis pas de bêtises,
exactement,
qui est très très joli, très très fin, et les sons du groupe Anamanaguchi, évidemment, je me suis planté pour le dire, la chiptune qui est vraiment vraiment géniale, la bande sonore est absolument superbe, et c'est ça je pense qui a beaucoup plu et qui font que c'est vraiment intéressant. Donc c'est pas non plus un chef-d'œuvre en termes de gameplay, il y a pas mal de limitations, on pourra y revenir après. Donc quand tu dis jeu mal équilibré, pour moi c'est un jeu mal équilibré, avec une direction artistique très bien réussie. Donc la vérité finalement elle est un petit peu entre les deux. Je sais pas toi quel est ton point de vue sur la question.
Je suis d'accord avec toi. En fait c'est intéressant parce que le jeu devient plus intéressant en multi en théorie, mais étant donné qu'on est tous un petit peu les uns sur les autres et qu'on se colle des baffes et c'est que ça. On sait pas bien, surtout si on n'a pas de communication audio directe, ce qui est possible avec le online, on peut jouer ensemble sans forcément pouvoir se parler.
On y a joué comme ça d'ailleurs ensemble.
Oui, par accident, mais oui. Le problème, c'est qu'on peut pas en faire, grand chose malheureusement quand on est vraiment à plusieurs et qu'on peut pas se dire bon voilà, moi je les prends en haut, toi tu les prends en bas, ou moi je les prends à gauche, toi tu les prends à droite. Et ne serait-ce que ça se voit que le jeu est déjà mal. J'aurais utilisé ce terme beaucoup de fois et je l'ai déjà utilisé une fois dans le conducteur d'ailleurs, mais vraiment mal équilibré. C'est-à-dire que seul, tu te retrouves vraiment en cul-de-sac, entouré, enfermé par des ennemis, et à plusieurs, tu as de quoi te défendre, mais du coup, tu dois aussi te défendre contre tes propres potes, quoi. Enfin, c'est assez compliqué de ce côté-là. Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Contrairement à d'autres jeux qui, à mon avis, sont moyens, voire médiocres, effectivement, il a ce côté, toute cette part artistique qui le remonte. Et enfin, vraiment, j'aime l'univers Scott Pilgrim. J'aime bien l'idée d'un beat'em up, et d'un beat'em up si possible un petit peu accessible, ou avec des gimmicks, comme là on a un petit peu de dimension RPG qui est rajoutée par-dessus, un petit parfum comme ça. Donc en théorie, il me plairait beaucoup. Le problème, c'est que cette exécution-là, tu l'as dit, est malheureusement loupée. On parlera plus tard des glitches et de la courbe de difficulté, mais enfin, pour moi, c'est clairement pas un jeu parfait, c'est clairement pas un chef-d'œuvre. Par contre, c'est un jeu notable. C'est pas un jeu indépendant parce qu'il a été développé par des studios d'Ubisoft, mais il est dans cette vibe-là des premiers jeux en téléchargement. Il est emblématique de ces premiers jeux en téléchargement, où d'ailleurs, les développeurs et les éditeurs cherchaient beaucoup ce qu'ils voulaient faire pour ces plateformes, pour ces méthodes de distribution. Quel genre de jeu, quel budget, quel style visuel, qu'est-ce qu'on peut mettre, alors qu'il y a des limitations, en tout cas il y en avait à l'époque, des limitations assez drastiques sur la taille des jeux qu'ils pouvaient avoir sur des systèmes comme le Xbox Live Arcade ou sur le PlayStation Store, vraiment il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui on n'en est plus là parce que tous les jeux sont distribués maintenant par ces canaux, mais c'est un produit de l'époque, et en cela, il est super intéressant, et en ça, j'avais vraiment envie de le faire pour ma culture.
Est-ce que tu l'avais fait à l'époque ou pas, d'ailleurs ?
Non, j'avais fait la démo sur Xbox 360, et c'est pour ça que j'ai gardé un a priori, je ne vais pas dire positif, mais disons assez innocent sur le jeu, que j'avais vraiment envie de l'essayer pour moi.
Ouais.
On avait parlé à la fin de l'épisode précédent, en mode, ouais, il n'est pas aussi bien qu'il peut l'être dans le souvenir d'autres personnes, c'est plus ou moins ce que tu me disais. Et j'avais quand même envie de l'essayer pour moi-même, pour cette raison-là, en fait.
Ouais, c'est un peu une découverte finalement pour toi. C'est pas mal comme regard aussi, du coup.
Oui, c'est une découverte. Après, la bande-son, je l'ai vraiment épuisée. J'aime beaucoup Anamanaguchi, j'aime beaucoup la plupart de leurs albums, et j'ai passé des heures et des heures, il y a justement une dizaine d'années, sur l'album lié au jeu. Je trouve que musicalement, même toute la licence, Scott Pilgrim fait d'excellents choix musicaux, en tout cas des choix musicaux qui me plaisent beaucoup, et celui-là en est un parmi d'autres. Donc ça me donnait aussi, ça a accentué une certaine répétitivité, j'ai trouvé, dans la bande-son pour moi.
Ouais, bon, après j'aime beaucoup Anna Mouskouri,
très bien. Nana Mouskouri, Gucci, super, ça ferait une belle déclinaison de marque pour cette marque de mode. Retournons au jeu lui-même, si tu le veux bien, et à cette dimension RPG, puisqu'on peut leveler ces personnages dans Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Est-ce que ça, tu trouves que c'est un apport pour le jeu ou pas?
Alors, c'est intéressant. C'est aussi en ça que je rapprochais beaucoup de Castle Crashers. Mais comme Castle Crashers, ils ont le même défaut là-dessus au niveau du gameplay. C'est-à-dire que le jeu, au tout début, est extrêmement poussif parce que tes persos, ils sont pas rapides, ils ont pas beaucoup de combos, tout ça. Donc, c'est bien moins intéressant. Et au début, tu t'ennuies, en fait, malheureusement. Enfin, tu t'ennuies. Tu souffres.
Mais je trouve que dans Castle Crashers, tu peux le compenser avec les items que tu achètes dans les boutiques. Ce qui est beaucoup moins vrai, parce qu'en fait les items que t'achètes dans les boutiques dans Scott Pilgrim, c'est surtout des objets pour remonter tes points de vie et pour améliorer tes stats si tu payes vraiment cher pour ces objets là et évidemment tu ne peux le faire qu'à la moitié du jeu vraiment sérieusement, donc ça n'aide pas autant, la possibilité n'est pas réellement là parce que t'as pas assez de thunes. Donc il y a ce problème là.
Tu piges rien, faut être honnête, tu ne piges rien aux objets, c'est mal expliqué
parce que tu peux pas savoir quels effets ils ont, enfin tu peux le savoir qu'après les avoir achetés, ce qui est regrettable. Y a ça d'une part, et puis d'autre part, donc oui, dans Castle Crashers, t'as plein d'objets offensifs que tu peux acheter. Je crois que tu peux acheter des bombes, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais j'ai le souvenir en tout cas que dans Castle Crashers, tu pouvais vraiment acheter des objets non pas pour simplement essayer de te faire durer légèrement plus longtemps, mais pour mettre les vagues d'ennemis en mauvaise posture, ce qui est quand même beaucoup mieux.
Oui, et puis t'avais quand même une difficulté qui était mieux équilibrée, c'était beaucoup plus linéaire, alors que là, dès le début de Scott Pilgrim, tu es assailli par un nombre d'ennemis qui est vraiment conséquent, qui t'enchaîne hyper facilement, sans aucune difficulté, et que tu as du mal à taper parce que du coup, comme les hitbox sont mal foutus, t'as du mal à les caillasser. Alors que t'as plein d'objets en plus à ramasser, mais là aussi, hitbox mal foutu, si t'es pas pile poil sur le bon pixel... Et ben ça marche pas. C'est très frustrant.
Je suis tout à fait d'accord. Un autre truc regrettable avec cette dimension RPG, c'est que tu level pour débloquer des nouveaux coups. Mais certains nouveaux coups, c'est des trucs évidents, comme par exemple faire une roulade, c'est-à-dire faire un blocage, mais le faire sur le côté pour pouvoir éviter une vague d'ennemis. Des trucs tout bêtes comme faire un coup plongé. Des trucs comme ça, enfin un coup fort plongé, ça devrait être débloqué dès le départ. Je vois vraiment pas l'intérêt, d'autant plus quand tu fais face à des ennemis qui sont vraiment plus forts que toi et que t'as des ressources limitées, t'es au plus bas au niveau de ta vie, c'est vraiment complexe, et tu dois gérer ça comme ça. Donc vraiment, vraiment dommage.
Alors que justement, dans Castle Crashers, quand tu montes de niveau, selon les 4 compétences, en fait, ça te renforce. Par exemple, quand tu montes ta magie, ça augmente sa portée, tu vois. Donc ça, c'est bien pensé aussi, parce que tu as la magie quand même, mais du coup, elle est plus efficace. En fait, ils auraient dû trouver un moyen d'améliorer finalement certaines palettes sans trop assécher le gameplay de base.
J'ai l'impression que juste leveler ton personnage lui apporte très peu de points de compétence en plus en attaque, en défense, etc.
Il faut utiliser les objets.
Voilà.
C'est indéniable.
C'est-à-dire que le jeu t'explique, tu vas leveler et ça va te rendre plus puissant, et c'est faux. Ouais. C'est faux.
C'est pas suffisant.
Le truc qui va te rendre le plus puissant, c'est de t'empiffrer dans les boutiques pour et quand je dis empiffrer, c'est à dessein parce que la plupart des trucs que t'achètes dans les boutiques, c'est à boire et à manger pour pouvoir faire monter ces variables-là.
Et pour ça, il faut ramasser des thunes que tu dois ramasser en allant là aussi à l'endroit précis où se trouve la pièce pour pouvoir la ramasser. Rien que ça, déjà, en y rejouant, j'ai trouvé que c'était vraiment un écueil qui montrait à quel point le jeu est daté, parce que aujourd'hui, honnêtement, t'as des espèces d'aspirations automatiques pour ce genre d'objet, et là c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire d'aller pile poil sur la pièce pour la ramasser. J'ai vu d'ailleurs quand on a joué à deux que tu traces, tu t'en foutais des pièces limite.
J'en avais assez, en fait j'avais déjà levelé ma Kimpine suffisamment et je l'avais déjà assez boosté en fait, donc j'étais un peu en mode si Lou les veut, prends-les, t'es au début du jeu, au contraire ça va t'aider quoi. Non, le truc
mais
encore
oui,
plus frustrant, c'est que
tu
peux choisir 3 difficultés, et entre parenthèses, la monnaie reste la même, la progression dans le jeu reste la même, etc., etc. Tu peux choisir entre 3 difficultés quand tu te lances dans le mode histoire, et ce que je trouve dommage, c'est que Enfin, en soi, c'est logique, mais du coup, ça casse encore plus l'économie du jeu. Pour récupérer le plus de pièces, il faut jouer dans les modes les plus difficiles. Donc, pour optimiser tes pièces, il faut avoir optimisé ton personnage. Mais pour optimiser ton personnage, il faut optimiser tes pièces. Ce qui est un ouroboros de nécessité. Enfin, c'est pas possible. Et c'est en cela, je trouve, qu'il est très casse-gueule. Mais au-delà de ça, c'est intéressant ce qu'on dit. Ce côté RPG est mal équilibré, et du coup... il crée déjà en lui-même une courbe de difficulté complètement inégale, mais la courbe de difficulté en dehors de ça est déjà casse-gueule. Et j'en veux pour exemple la transition entre le niveau 4 et le niveau 5 du jeu, où avec un personnage qui a exactement les mêmes stats, ce que j'avais regardé, le niveau 4 était clairement beaucoup plus difficile que le niveau 5. Je suis mort plein de fois dans le niveau 4, je suis mort mais une ou deux fois dans le niveau 5 et c'est bon quoi. Donc, frustrant. Je trouve ça frustrant, et d'une manière générale, ces morts-là, qui sont vraiment injustes, deviennent de plus en plus frustrantes, parce que les niveaux, à mon avis, sont un peu trop longs et qu'ils auraient dû être coupés en plusieurs niveaux. Mais ça, c'est autre chose.
Ils le sont, en fait, sur la carte du monde, sauf que dans les faits, quand tu fais le jeu de façon cursive, ils les enchaînent, tout simplement.
Oui, oui.
Donc, c'est un peu le souci, c'est ce qui est un petit peu étrange, d'ailleurs, dans ce découpage de cartes, c'est-à-dire que tu peux revenir à certains endroits de jeu prédécoupés, mais par contre, il faut tout faire d'un bloc au début. Donc, c'est pas clair. Et je trouve que ça aurait été des points qui auraient vraiment mérité d'être améliorés en refaisant le jeu, mais ils ont vraiment pris le parti de le ressortir à l'identique. D'ailleurs, tant que j'en parle, il y a une chose qui aurait été intéressante, c'est qu'ils ajoutent finalement, enfin, ou qu'ils développent le DLC qui était prévu, qui a pas été fait pour raison de budget, qui était le DLC à Montréal, dans lequel tu avais les personnages de Clash of Demon Head de jouables, donc le groupe de musique dont la chanteuse leader est Envy Adams, donc l'ex de Scott, et dont le batteur est Todd, l'ex de Ramona, qui trompe Envy d'ailleurs, je crois, avec Lynette, qui est donc la troisième personne du groupe. Donc tu les affrontes en fait, ceux-là dans l'aventure principale. C'est le numéro 3 je crois, Dex ou 2, je sais plus.
Je sais plus trop. Oui, ça doit être le 3, parce que Clash at the Demon Head arrive assez tôt dans le jeu justement.
Et enfin, j'aurais adoré, surtout que enfin dans le film, j'adore Brie Larson qui joue Envy du coup et qui chante de manière incroyable, et en fait pour revenir, parce que je dis que j'avais parlé du film, c'est un peu ma conclusion, mais je vais la sortir maintenant parce qu'on est dedans. C'est-à-dire que j'avais un souvenir de Scott Pilgrim, le chef-d'œuvre entre guillemets, ce que tu évoquais, la question de chef-d'œuvre, c'était le jeu vidéo, et le film était pas mal. Et en fait, en rejouant au jeu vidéo, je me suis repassé des séquences du film, et je me suis dit, il y avait ça dans le film, mais c'est génial.
Mais il y a une blague de la minute dans le film, c'est ça qui est bien aussi.
Et enfin, je trouve qu'il y a une créativité dans les effets, dans la façon dont c'est représenté, que je trouve vraiment brillant, même dans le référentiel en fait, en rejouant au jeu vidéo Scott Pilgrim, j'ai l'impression que les références, ça faisait un peu Ready Player One, c'est-à-dire oh, j'ai mis une Triforce ici,
il y a des blocs points d'interrogation, il y a des pièces quand on tape dessus,
une route arc-en-ciel, un tuyau vert, donc c'était vraiment hyper souligné, hyper exagéré, là où dans le film c'est malgré tout un peu plus subtil, et ça ne passe pas que par le graphisme, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo ça passe beaucoup par le graphisme, les références sont avant tout graphiques et pas en termes de gameplay, là où ça aurait été intéressant justement. Donc au final, je crois que s'il y a un truc sur lequel il faut vraiment se pencher, si on a la nostalgie de Scott Pilgrim, au-delà des comics, parce que moi je suis pas très comics à la base, mais c'est le film plutôt que le jeu vidéo, je dirais.
Non, clairement, et tu vois le génie de Edgar Wright derrière. Bon, personnellement, j'apprécie beaucoup Edgar Wright,
et puis un casting, et aujourd'hui quand tu vois le casting,
le casting est dingue, enfin, tout le film
Aubrey Plaza, Alison Peel, Mae Whitman, Jason Schwartzman, Chris Evans,
mais oui, non,
Michael,
enfin,
Cera.
tout le cast, personnellement, cure avec les mains. Fun fact, par erreur, j'ai vu Scott Pilgrim en version québécoise, ce qui est d'ailleurs rigolo parce qu'il se passe au Canada, l'adaptation du film. Et je préfère les voix québécoises sur ce film en particulier. Voilà, je l'ai découvert avec ça. Et maintenant, si je veux le revoir, je mets un point d'honneur à retrouver le dub québécois.
C'est marrant parce que je comprends les films.
Il y a très peu d'anglicisme québécois, tu sais, comme il peut en exister dans ce genre de traduction.
Dans les films, je trouve que c'est rare. Ils ont pas l'accent en plus. Enfin, tu vois, ça pourrait vraiment passer pour des films français.
Ouais, ouais, ouais.
Et à l'époque, du coup,
il y a juste
très longtemps. quand j'avais mon premier copain du coup qui téléchargeait des films et qu'on regardait et il tombait des fois sur des versions québécoises et on savait pas que c'était des versions québécoises. On regardait, je me souviens par exemple, on avait regardé le Nemo, le monde de Nemo en version québécoise et j'avais pas du tout aimé, je trouvais ça pas drôle, je trouvais ça nul et je comprenais pas trop pourquoi. Et c'est juste parce que il y a plein de façons de parler, d'adapter. J'avais pas tilté, hein, vraiment. Il n'y avait pas de tournure qui faisait penser que. Mais voilà, j'avais pas apprécié. Donc c'est marrant que tu aies préféré la version québécoise pour le coup.
Tu t'as donné ta vision du jeu et je veux donner la mienne assez rapidement. En fait, ce qui est retort avec un jeu comme Scott Pilgrim versus The World, The Game Complete Edition, c'est qu'il devient d'une certaine manière plus intéressant, en tout cas que ses défauts disparaissent quand ton personnage est vraiment suffisamment puissant.
Exactement.
Tu passes un petit peu dedans comme dans du beurre, et même si effectivement il te manque ce challenge-là qui pourrait rendre le jeu encore plus intéressant, ça devient vraiment un moyen de juste profiter du visuel, profiter de la musique, profiter de vraiment l'ambiance dans laquelle le jeu te met, et du coup ça change complètement ton image et ta nostalgie vis-à-vis du jeu. Ça t'en donne une, en fait, de nostalgie vis-à-vis du jeu. Et c'est typiquement le genre de jeu où tu vas te dire « Ah, en fait, c'était sympa, Scott Pilgrim. » Tu recommences une partie, tu fais « Ah, en fait, non. »
Ouais, complètement. Et puis, même avec les niveaux, tu vois, alors je comprends tout à fait la construction du jeu qui te dit ben, « On commence vraiment dans un univers classique, hein, la ville, etc. » Et petit à petit, on va ajouter des bizarreries, on va être vraiment de plus en plus original, même dans les niveaux, dans les thématiques des niveaux. Les derniers niveaux sont, à part peut-être le tout dernier, que j'aimais pas trop, je trouvais que de manière créative, c'était pas le plus intéressant. Ouais. Mais plus on s'approchait de la fin, vraiment, plus les niveaux étaient cool, étaient sympas, étaient inventifs. Et c'est ça aussi, quelque part, qui est un petit peu injuste, finalement. Donc c'est dommage, c'est que c'est un jeu que tu ne peux vraiment apprécier qu'en te forçant. Et c'est en ça aussi que je trouve qu'il est un petit peu daté, parce que aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. Les jeux te donnent vraiment du grand spectacle et du plaisir et de la facilité, et au moins de la fluidité, pas forcément de la facilité, mais de la fluidité dans le gameplay dès le début. Et c'est important en 2020, mais tu vois quand même qu'en 10 ans, la manière d'appréhender les jeux a beaucoup évolué.
Je veux terminer ce dossier sur Scott Pilgrim sur un coup de gueule, et c'est le online de Scott Pilgrim. C'est...
Déjà, alors attends, c'est connexion foutu. Obligatoire ou Ubisoft Connect.
Oui, voilà. Ça, non, mais alors ça m'a un petit peu frustré, parce que d'une part, t'as un jeu qui littéralement ne change rien. Brian Lee O'Malley, qui est le créateur, dit non, mais le DLC Montréal, on voulait le faire en 2009, on n'a pas pu le faire à cause d'un manque de budget, et là on le fera pas non plus. Ce qui fait un peu mal. Mais bon, ok. Donc, il y a rien qui change. Par contre, on t'inflige Ubisoft Connect, ce que je trouve assez ridicule. Et je suis totalement d'accord avec John Abraham 22 sur le chat, sur Twitch. Online bricolé pour la réédition, exactement. T'as pas de lobby à proprement parler. En fait, l'idée, c'est que tu crées une partie online sur une console, et soit l'autre simplement rejoint et tu pries pour que ça rejoigne la bonne partie, soit tu dois envoyer une invitation avec le système d'envoi et de réception d'invitation de la Switch que j'avais jamais utilisé en 3 ans. et donc Hosanna, tu vois, j'ai vu la notification, je me suis dit, ça vient de la console, ça. c'était très curieux.
Il y a
pas beaucoup d'UI sur la Switch, c'est une console très limitée de ce côté-là, hein. ils sont vraiment extrêmement réduits. Donc du coup, voir après 3 ans un nouvel élément d'UI, j'ai fait hein. Bah c'était assez curieux. Donc j'ai rejoint ta partie comme ça, et bon, attends, c'était pas top. Après, je suis pas dans les meilleures conditions pour jouer, donc je me jette un petit peu la pierre, mais voilà, c'est vraiment pas extraordinaire. Peut mieux faire niveau 40 000 de ce côté-là. Et puis, enfin, vraiment la petite insulte de pousser le Ubisoft Connect pour un jeu comme ça, ça sent vraiment la directive valable pour tout Ubisoft, y compris quand ça fait assez peu sens. Alors oui, il fait du tracking, il voit ce que tu fais, il voit le nombre d'ennemis que t'as battu, etc. Ça ne sert virtuellement à rien, mais c'est là-dedans. Voilà.
Mais en tout cas, on pourra rejouer en ligne avec le son la fois prochaine. J'ai juste mon cerveau qui s'est activé pour se dire, mais en fait, il suffit que je mette mon capteur OBS sur en plein écran, et que je pas mon OBS, mon game capture en plein écran, et que je prenne OBS justement pour capturer l'écran 1.
Oui.
Et en fait, voilà, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi, je pense la pression de jouer ensemble m'a fait désactiver mon cerveau ce jour-là.
John Abran, toujours sur Twitch, qui nous dit « Ça m'a fait la même cette nuit avec la mage Animal Crossing. J'ai eu une notification in-game pour me prévenir de la maintenance serveur. J'en ai jamais vu des comme ça non plus. » Et je suis très curieux. C'est marrant parce que ça, ils l'ont pas annoncé. J'imagine que ça doit être une addition récente à la panoplie de ce qu'il y a dans l'OS de la Switch. C'est curieux. J'ai hâte de voir ça pour d'autres jeux, pour le coup, parce que c'est bien qu'ils l'annoncent dans la console, vu qu'on n'a pas forcément envie de checker Twitter ou le site officiel du jeu pour avoir ce genre d'infos. Merci, John Abran, pour ses nombreuses réactions en direct sur Twitch. On passe, si tu le veux bien, à une nouveauté dans la cartouche et dans les podcasts Blueprint. Si tu le veux bien, Lou, c'est une bonne pub. Alors une bonne pub, vous allez voir, c'est tout simple, c'est une promo, un spot qu'on fait gratuitement pour nos amis et également pour nous-mêmes de temps en temps, ou alors pour des opérations caritatives. Là c'est pour le projet d'un ami, qui peuvent donc nous proposer des choses comme ça, et nous on a simplement envie de parler des trucs cool que font nos potes, qu'on fait nous-mêmes, et que des opérations caritatives organisent. Donc c'est le pitch d'une bonne pub, et pour aujourd'hui je vais vous parler de Urza Gatherer, qui est une application entièrement gratuite qui sert à gérer sa collection et ses decks de cartes Magic The Gathering. Si vous êtes joueur ou collectionneur de Magic, c'est l'app qu'il vous faut, car elle est gratuite et faite par un vrai amoureux du jeu. Pour découvrir l'app, c'est tout simple, vous allez sur www.urza, U-R-Z-A, Gatherer, comme le mot le dit en anglais, .app, urzagatherer.app, pour cette application qui permet de gérer ses decks Magic The Gathering. C'est notre ami David Catu du podcast La Confrérie et également de Microsoft, parce qu'il bosse sur Microsoft, qui développe tout ça. Voilà. Et pour plus d'informations sur les bonnes pubs, rendez-vous sur www.blueprint.pm/bonne-pub. Allez, on passe au « Tu veux, tu veux pas » les jeux qui sortent dans les deux prochaines semaines, donc d'ici au 12 février 2021. Mon cher Lou, « tu veux pas » The Pedestrian, qui sortira le vendredi 29 janvier, c'est demain, ou c'est aujourd'hui si vous nous écoutez en podcast, qui sortira donc sur PS4, PS5, il est déjà disponible sur Windows, macOS et Linux. Je sais pas si tu l'as vu, The Pedestrian.
Si, moi j'ai fait mon boulot, j'ai été voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'aime bien le principe, cool, hein, le côté jeu d'énigmes, tout ça. Mm.
Qui se passe dans des panneaux, en fait. L'idée, c'est que ça se passe, ouais, dans les glyphes que vous voyez, genre le petit bonhomme qui traverse la route. Bah, vous pilotez le petit bonhomme, vous devez relier des panneaux entre eux, et c'est ce genre de petit jeu qu'on avait l'habitude de voir sur mobile, mais là, pour le coup, vraiment développé sur un jeu entier avec tout un univers visuel assez réaliste.
Ouais. Ouais, carrément, c'est ce que j'allais dire, le côté graphique aussi, là aussi, est intéressant. Donc, moi, c'est plutôt un jeu veux, et toi ?
Alors, on me l'a offert et j'y ai joué une petite heure sur PC et je trouve ça chouette. Ça devient assez vite compliqué, je dois l'admettre. Donc, il faut que j'y aille vraiment en m'y consacrant pleinement. C'est vraiment pas le genre de jeu que tu fais vraiment sur le pouce. C'est comme ça que je le qualifierais jusque-là. Après, la version PS4 et PS5, j'en ai pas besoin. Je l'ai déjà sur Steam. Et dès que j'aurai reçu toutes les pièces de mon futur nouveau PC, car je me prépare un petit PC de jeu, puisque c'est assez correspondant avec certaines, je ne vais pas dire obligations professionnelles, mais en tout cas possibilités professionnelles de mon côté, ce sera l'occasion de m'y plonger à 300%. On passe à Destruction All Stars, qui sortira le 2 février sur PlayStation 5 et qui sera inclus dans le PlayStation Plus dès cette date et pour 2 mois. Si je devais le pitcher, ce serait c'est Burnout, mais centré en arène multi, c'est très fluo et c'est aussi à pied, donc on peut monter et sortir de 3 types de véhicules différents, véhicules bourrins, véhicules qui tournent bien et véhicules rapides avec différents modes de jeu, des trucs qui sont équivalents de ramasser des pièces puis les mettre dans sa banque, mais aussi bousculer les autres, etc. etc. Enfin, y a plein de petites variations de gameplay sur cette mécanique globale avec les véhicules qu'on peut ruiner. On peut ruiner les véhicules des autres et on peut utiliser des super pouvoirs qu'on charge au fur et à mesure qu'on joue. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça te fait envie ?
Alors, je suis pas du tout la cible. Donc pour moi, c'est clairement un je laisse passer. Et toi ?
Je me pose des questions. Vu qu'il sera gratuit avec le PS Plus et que j'ai encore 1 mois et demi de PS Plus, je vais volontiers l'essayer.
Le tester, ouais.
Il a du potentiel, je trouve. La question, c'est est-ce que ce sera assez lisible ? Est-ce que ce sera assez fun ? Et est-ce que ce sera pas trop répétitif ? C'est toujours le même genre de questions avec ces jeux un peu service. C'est intéressant parce qu'il devait sortir plus tôt. Il devait sortir au launch de la PlayStation 5. Et il devait sortir, et il sortira d'ailleurs full payant, alors qu'il y a des mécaniques de microtransactions qui permettent bah, d'acheter du cosmétique. Donc là, je pense que c'est un jeu qui pas forcément vaudra le coup en payant, mais peut-être avec le PlayStation Plus, pourrait être un bon jeu à PlayStation Plus. En tout cas, visiblement, c'est ce que pense Sony. Donc, à suivre vraiment pour ma part. Enfin, tu veux pas, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury le vendredi 12 février sur Nintendo Switch.
Eh ben là, carrément, mais là, je fonce. On a vu déjà des images, là, des vidéos du mode Bowser's Fury
oui.
où on comprend un petit peu mieux le principe, donc c'est vraiment une espèce de grand monde ouvert finalement qu'on débloque petit à petit, progressivement, un petit peu à la ça m'a fait penser à Mario Sunshine quand t'ajoutes des soleils en fait,
oui.
où tu vois la lumière qui a grandi sur l'île Delfino. Donc là, c'est un peu le même principe, qui me donne très envie d'ailleurs, je trouve assez sympa. Et puis, je suis très heureux, ça je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter, que la vitesse des personnages a été accélérée.
Oui.
Parce que je trouvais que le jeu était un petit peu moumou quand même. Et là, il va être beaucoup plus péchu, très péchu vraiment, on voit le rythme très sympa. Et ça me donne tellement envie d'y jouer. On peut jouer avec Peach, donc forcément, je veux.
On pouvait déjà jouer à l'original avec Peach. Par contre, on ne pourra
Bien
pas
sûr.
Jouer avec Peach dans Bowser's Fury, donc il faudra se contenter du plombier moustachu. Bah voilà, on a fait le tour des quelques jeux que j'ai retenus pour le tu veux pas. On passe désormais à l'actualité. Et dans l'actualité aujourd'hui, 4 news, et je commence si tu le veux bien avec Vicarious Visions qui a été fusionné dans les différents studios Activision Blizzard. Donc Vicarious Vision appartenait déjà à Activision Blizzard, c'est à eux qu'on doit notamment la trilogie Crash Bandicoot, auquel on doit d'ailleurs certains jeux Skylanders et auquel on doit aussi Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 HD, je crois que j'ai dit le titre dans le mauvais ordre, mais vous voyez de quel jeu je parle, qui est sorti l'année dernière sur les consoles PS4, Xbox One, etc. C'est décevant parce que Vicarious Visions faisait des chouettes trucs, et les voir simplement, comment dire, dilués dans les différents studios Activision Blizzard, bah, ça leur donne plus la même personnalité et à mon avis la même marge de manœuvre, ils vont plus être ballottés de projet en projet. La rumeur là, c'est qu'ils bossent sur un remake haute qualité de Diablo 2, mais ce n'est qu'une rumeur à ce stade. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que t'étais surpris? Est-ce que t'étais déçu d'apprendre ça?
Déçu, non.
Toi, tu les connais plus via Skylanders, j'imagine.
Oui, tout à fait. Bon, après, c'est pas non plus. Enfin, Skylanders,
c'est pas le jeu du siècle.
Oui. C'est pas le jeu du siècle. Là, pour le coup, c'était vraiment le triple Lego, hein, Skylanders. C'est le jeu où tu débranches ton cerveau. Encore que, quand je regarde mes figurines aujourd'hui, je me disais à quel point le concept était vraiment sympa. J'aimerais bien que ça revienne un jour, pourquoi pas. J'aimerais bien surtout le faire fonctionner. Car évidemment, j'ai les socles Xbox qui sont les seuls qui ne sont pas compatibles avec le PC. Ce qui est quand même assez sarcastique quelque part. Donc, assez ironique. Oui, non, il y a un problème évidemment de perte d'identité, de perte de créativité, et même au niveau du consommateur, ça peut être dommageable. J'ai un exemple en tête, c'est évidemment celui de Maxis, qui a été racheté par EA du coup, et EA a voulu gommer la marque Maxis pendant très longtemps, dès les Sims 2, je crois que c'est arrivé pendant les Sims 2. C'était même compliqué en termes de développement à terme en fait, et là ils ont vraiment respécialisé, rappelé l'équipe Maxis, vraiment les Sims, etc., pour pouvoir justement responsabiliser aussi et dédier certaines équipes spécifiquement à certains projets. Alors il y aura toujours des studios où ils sont toujours spécialisés, c'est pas la question, mais c'est juste qu'en éclatant et en diluant, le mot diluer est vraiment très bien choisi comme tu l'as fait, tu perds forcément aussi ce qui fait ta spécificité, ta créativité, même sur des jeux de commande. Donc ça peut être dommageable. Après, on verra, peut-être que ça le sera pas du tout et que c'est juste un changement de nom et une simplification, mais il y a toujours un petit risque justement à ce niveau.
C'est intéressant parce que globalement, c'est des choses qui arrivent chez Nintendo assez souvent en fait. On n'en parle pas beaucoup, mais t'as beaucoup de studios qui font partie de Nintendo, qui sont
ils viennent de racheter des
second parties très proches. Ils ont racheté Next Level Games, mais Next Level Games pour l'instant, ils n'ont pas du tout annoncé ou ils n'ont pas du tout démontré qu'ils étaient intéressés de vraiment complètement rapatrier les gens qui sont dedans pour travailler en interne. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on est en fait beaucoup plus proche avec Nintendo de ce qui se passe notamment dans le domaine de la tech, de ce que font des boîtes comme Apple par exemple, qui voient une équipe prometteuse, qui la rachète achètent et qui disent, ben voilà, vous allez bosser sur ça pour nous. Et malgré tout, et ça rentre aussi dans le débat évidemment artistique par rapport aux jeux vidéo, quand tu as une signature, quand tu as un certain nombre de créatifs qui travaillent ensemble et qui font des jeux, qui produisent des choses ensemble, c'est dommage de voir ça se diluer. Donc aussi bien quand c'est un studio dans l'orbite de Nintendo qui se fait fusionner et qui tombe à l'intérieur, que quand c'est là Vicarious Visions chez Activision Blizzard, dans les deux cas je suis un petit peu triste. Alors forcément ça fait toujours plus de bruit quand c'est Activision Blizzard, parce que Activision a une bien moins bonne image de marque que Nintendo, mais dans les deux cas, je trouve cette pratique-là dommageable. Animal Crossing New Horizons, mon cher Lou, a fait un carton en France en 2020. Quelle surprise!
Tout à fait. Alors, c'est un cabinet allemand, du coup, qui a un petit peu étudié les meilleures ventes de chaque pays en Europe. Et figure-toi que la France est le seul pays à avoir pays d'Europe occidentale à avoir plébiscité, du coup, Animal Crossing New Horizons comme jeu le plus vendu en 2020. Alors que le reste de l'Europe, c'était principalement sur FIFA. Voilà.
Ça me rappelle beaucoup la conversation que j'ai eue au début de la saison en septembre avec Pascal Zontag, qui a beaucoup bossé pour Xbox France au niveau des relations presse, relations publiques, et qui expliquait que non seulement la France est une terre qui aime beaucoup Sony, mais la France est une terre qui pardonne tout à Nintendo. C'était sa façon de voir les choses. Et c'est vrai que il y a l'air d'avoir une exception française là-dedans. Et j'ai même envie de te dire que intuitivement, simplement en parlant avec les joueuses et les joueurs autour de moi, c'est également vrai en Suisse francophone. Il y a une influence, il y a, on va dire, une sorte de communauté de goût qui se forme là. Je ne sais pas au niveau de la Belgique francophone, il faudrait demander à Greg, il faudrait demander aux Belges qui nous écoutent s'ils ressentent également ce côté très, très pro-Nintendo, très réceptif à Nintendo, mais c'est clairement dans notre ADN de jeu. Enfin, moi, c'est ce que je palpe, c'est ce que je ressens, en tout cas, ici, à Genève et alentour.
Ce qui est amusant, parce qu'on a quand même dans les chiffres, on est toujours, en termes de vente de PlayStation, on est toujours un petit peu au-dessus en termes de proportion par rapport à nos voisins. Bon, alors par contre, c'est vrai que la Switch a fait aussi un carton énormissime en 2020, avec un chiffre d'affaires qui augmente de 40%, donc ce qui est assez assez dinguissime. Mais malgré tout, donc la performance d'Animal Crossing, c'est aussi de détrôner FIFA, qui était premier jeu vendu en France pendant 6 années consécutives. Et c'est la première fois qu'il y a un jeu Nintendo depuis 13 ans. Le précédent, c'était Mario Kart Wii. Donc,
en numéro 1, tu veux dire.
Très très longtemps. Oui,
en numéro 1, parce que dans les top 10 ou 15 ou 20, les jeux Nintendo, et ça date pas de la Switch, trust les premières places. Pas la première.
Sinon, c'est les Call of Duty et les FIFA.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est effectivement intéressant de voir ça. Animal Crossing New Horizons, c'est vraiment un jeu hors norme pour Nintendo. Et c'est paradoxal, parce que quand tu regardes le contenu qu'il a ajouté peu à peu, ça se ressent pas vraiment. Là, on a un petit tease pour ce qui devrait venir en mars, qui devrait être une mise à jour un petit peu liée à Mario pour les 35 ans de Super Mario Bros, la fin des 35 ans de Super Mario Bros. Donc toute l'opération se termine en mars, donc c'est pour ça qu'ils font quelque chose dans le jeu en mars. Mais globalement, la plupart des updates, ça a été... il y a des correctifs et il y a des événements, mais les événements, c'est collecte des trucs et ramène-le à un personnage au milieu de la ville.
Bah, plus le temps passe, moins c'est créatif, les mises à jour. Ça, c'est certain. Là, la prochaine, avec juste,
Janvier,
Roberto.
C'était, t'as vu, il y a des insectes!
C'est parce que là, c'était la vidéo classique de chaque début de mois qui présente. Mais là, la vraie mise à jour, du coup, de janvier, c'est Roberto, du coup, avec le carnaval qui aura lieu.
Oui, pour février.
Mi-février.
Mais techniquement, d'événements en janvier, c'était, t'as vu, il y a des insectes, quoi.
Il y avait rien. Ouais. Il y avait absolument aucun événement en janvier. Il n'y avait pas de mise à jour pour janvier. Et c'est dommage parce que il y a quand même des rumeurs sur ce qui devrait arriver par la suite avec le data minage, notamment les gyroïdes et le retour du café. Ouais. S'ils le font pas pour l'anniversaire, je comprends pas trop. Donc, alors que là, pour mars, effectivement, ils ont plutôt annoncé des trucs Mario. Donc, bizarre.
On verra.
C'est dommage. En fait, c'est dommage d'utiliser Animal Crossing comme support publicitaire, véritablement comme jeu sandwich pour Super Mario, alors qu'il devrait soigner plutôt l'anniversaire d'Animal Crossing en valorisant Animal Crossing. Enfin, ça me paraît plus logique. je me trompe peut-être, hein, je suis pas publicitaire ni communicant,
ben...
mais moi j'aurais, je pense que de la part des joueurs, ce serait en tout cas bien mieux vécu.
J'imagine qu'en l'état, Nintendo doit aussi penser que Animal Crossing se vend tout seul, mais que par contre, bien rappeler qu'il y a l'anniversaire Mario, c'est un moyen de pusher du jeu Mario, et Animal Crossing est un support publicitaire pour eux.
Ouais, mais ils auraient pu le faire avant, je pense, simplement que plutôt attendre la fin,
oui.
Justement.
Par exemple, en janvier, quand il n'y a rien eu.
Par exemple, tu vois, excellente idée. Franchement, je trouve que ça va être très très bonne idée. Tu vois, janvier, début d'année, tu profites finalement de refaire une publicité pour Mario sur 3 mois, plutôt que de le faire à la fin quand ils vont arrêter l'événement et qu'ils vont retirer les jeux à la vente.
Ouais, ouais.
Je rappelle, hein, Super Mario Bros. 35 et Super Mario 3D All Stars.
Je m'attends à un peu de twist quand même, hein, mais oui.
On verra. Un plot twist, tu crois? L'annonce d'un nouveau jeu comme ça, bim à la fin. Ah, ce serait drôle, ce serait drôle.
Je m'attends à, enfin, oui, peut-être, déjà. Enfin.
Allez, Odyssée de Tac.
C'est pas totalement inimaginable, d'une part.
Ah, je dis pas que c'est inimaginable, justement.
Si tu veux, Odyssée 2 serait un bon point d'étape si tu es aussi en train de dire, en fait, les mecs, Breath of the Wild 2, c'est pas 2021, parce qu'en fait, c'est un peu des centaines de personnes qui bossent dessus entre nous et Monolith.
Ouais.
Donc,
oui, mais alors...
Ouais, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc qui s'appelle le Covid et qui permet pas de mettre plusieurs centaines de gens dans les mêmes bureaux.
Ouais, mais le plus difficile, je pense, a été la création de d'Hyrule. Ah. Et je pense qu'ils vont reprendre la carte. Ils vont certainement ajouter des bâtiments, que sais-je,
oui.
Plein de choses, des donjons, etc.
Mais tu seras d'accord
pour moi,
aussi,
ils ont fait le gros du jeu.
Tu seras d'accord aussi pour dire que si tu fais Odyssey 2, comme t'as fait Galaxy 2, si tu fais Odyssey 2 ou si tu fais Breath of the Wild 2, on est d'accord que le plus difficile entre les deux, le plus long à faire, c'est Breath of the Wild 2, c'est pas Odyssey 2.
Eh ben. Je suis pas forcément sûr parce que il faut que tu refasses tout le game design et le level design dans Odyssey 2. Il faut que tu crées des mondes de A à Z. Dans Breath of the Wild 2, tu peux reprendre la même carte d'Hyrule, ton même monde qui est déjà constitué, et le modifier par endroit.
Oui, mais
je suis pas sûr que ce soit plus
oublie
difficile.
Pas le casse-tête énorme que ça a été, selon eux, pour équilibrer toute la simulation physique. Entre les différents éléments, tu peux faire des trucs de dingue dans Zelda Breath of the Wild. Enfin,
mais tout ça, c'est fait justement, tout le calcul du moteur, tous les éléments, tout ça.
Tu rajoutes des nouveaux types de trucs, ce qui serait logique pour une suite comme ça. Donc,
certes.
Je veux dire, si t'as aucun nouveau pouvoir, si t'as aucun nouveau type, on va dire, d'éléments pour interagir avec le monde, moi je trouverais ça décevant pour un.
Oui, mais t'auras 900 nouveaux Korogu.
Non, ok, au secours, on en a même trouvé un dans cette conversation, c'est terrible. Bon, passons à autre chose, passons à Microsoft et la petite débâcle autour du prix du Xbox Live Gold, puisque en 14 heures, Microsoft a annoncé qu'il doublait le prix de l'abonnement 6 mois, 1 an. L'idée, c'est que l'abonnement de 1 an au Gold allait, enfin, le prix 6 mois allait coûter le prix de ce que coûtait 1 an avant, c'est-à-dire $60, et que ça allait être graduellement appliqué aux différents territoires. Tout le monde a gueulé. Tout le monde a gueulé. Les gens sur Internet ont gueulé. Les gens sur Twitter, les réseaux sociaux, Reddit, etc. ont gueulé. Et Microsoft a dit, en fait, lol, non, c'est une erreur. Visiblement, enfin, on va pas se le cacher, la raison pour laquelle Microsoft fait ça, à mon avis, c'est parce que Microsoft vend un autre abonnement qui s'appelle le Xbox Game Pass.
Bien sûr.
Et Microsoft doit tenter par tous les moyens, aussi bien positifs que négatifs, de rendre le Game Pass, et notamment le Game Pass Ultimate qui inclut le Gold, plus attractif. Et une solution pour faire ça, c'est de mettre en gros le Gold et l'Ultimate au même prix, par mois. Pour
comme ça,
ensuite,
tu fais passer les gens.
Dire aux gens, oui, mais t'as 100 jeux de plus ou moins proches de Microsoft ou des indés, et en plus, t'as le catalogue EA Play, ou alors tu te touches avec le Gold qui te permet de faire ça, mais enfin qui te permet de jouer en ligne et d'avoir certains jeux le temps de ton abonnement, mais rien de plus. Et quand je dis certains jeux, c'est 2 ou 3 par mois, pas plus. Tu peux les cumuler, évidemment, mais t'atteindras pas le catalogue du Game Pass. En fait, si tu veux, pour moi, je vois l'idée, je vois pourquoi ils ont fait ça, mais à ce stade, il fallait être plus honnête et dire les fonctionnalités online, elles deviennent payantes pour telle et telle raison, tel et tel prix, etc. Mais ce qu'on veut que vous fassiez, c'est que vous preniez le Game Pass, voire le Game Pass Ultimate, et du coup, on fait graduellement disparaître la marque Gold. Je pense que ça aurait été le choix le plus intelligent. Mais évidemment, comme le Gold reste aujourd'hui une énorme manne financière, ils se sont dit... Au lieu de risquer de perdre des gens en faisant simplement disparaître ce programme, on va en monter le prix, parce que comme ça, soit on garde les mêmes abonnés au même prix, ils se rabattent simplement sur l'Ultimate, ou alors même, on peut en tirer plus de pognon par abonné, ce qui est bien, Mais évidemment, en pleine pandémie, doubler certains prix, c'est pas hyper bien vu. D'autant, enfin, le truc qui est extraordinaire là aussi, c'est que, en gros, le prix par mois changeait quasiment pas, le prix par 3 mois changeait un petit peu, et le prix pour 6 mois était le prix pour 1 an. Donc, alors que d'habitude, dans ce genre de truc là, on te fait un prix gros, et quand tu commandes pour longtemps, quand tu t'engages, c'est censé te coûter moins cher. Mais non, ça te coûtait plus cher.
Non, mais je comprends pas vraiment cette stratégie. T'as deux points principaux, c'est que tu dois faciliter le passage du gold au pass ultimate, peut-être en le rendant encore plus simple, simplement encore plus transparent pour les consommateurs. Ah. Et pourquoi pas, s'ils veulent vraiment transférer leurs abonnés, c'est leur proposer des offres en fait, finalement, faire des offres et pas faire le contraire, pas les inciter. Après, enfin les inciter.
Ceci dit, ils ont fait alors au crédit de Microsoft, les offres Game Pass à 1€, ils en ont fait une tête à chier ces derniers temps. Je crois même que ça existe encore pour les nouveaux abonnés, hein, mais.
Oui, mais il faut le faire de façon à transférer tes abonnés et mais pas en leur mettant le couteau sous la gorge presque. Surtout comme tu disais en pleine période de pandémie où justement le jeu en ligne est plus présent. Donc c'est un petit peu
oui, est une occasion de d'avoir un petit peu de social pour pas mal de gens et peut les aider au niveau de la santé mentale aussi d'ailleurs.
Après, ce qu'on peut reconnaître pour Xbox quand même, et on peut les féliciter pour ça, c'est qu'ils n'ont pas peur de dire bah, on s'est planté, on change d'avis, comme ils l'ont fait sur la Xbox One avec le lecteur hein, à l'époque. Enfin, avec le lecteur, avec la connexion obligatoire, le jeu machin, tout ça, le truc.
Mais même, ils en ont tellement appris qu'ils l'ont fait beaucoup plus vite. Enfin, j'ai trouvé la réaction entre guillemets exemplaire à partir du moment où ils ont commis l'erreur.
Mais ça prouve que peut-être ils n'ont peut-être pas fait assez de tests consommateurs. Non mais c'est vrai.
Je crois surtout qu'ils ont fait un test avec le comptable, si tu veux mon avis.
Ouais.
Qui leur a fait bonne idée.
Faut en parlant du comptable, réfléchir quand même 2 secondes.
Le 1.
Il faut peut-être réfléchir 2 secondes avant de lancer un produit comme ça et de prendre une décision pareille.
Après, c'est toujours la même chose. Hein, t'as la tête dans le guidon et tu fais pas gaffe. Ça, je peux tout à fait comprendre aussi. Non. Enfin, franchement, pour avoir pris des décisions qui semblaient vraiment complètement stupides par après, je vois comment ça arrive.
Oui, d'accord, mais tu n'es pas à la tête d'une boîte qui embauche des dizaines de milliers de personnes des dizaines de milliers de personnes compétentes aussi, enfin peut-être pas autant, mais
je suis d'accord avec toi, mais on est tous humains.
On est tous humains.
Et alors attends,
parce que sur le rétro-pédalage, je voudrais quand même signaler aussi ce qui était très très bien, c'est qu'ils sont même revenus plus loin, c'est que désormais certains jeux gratuits sont accessibles gratuitement.
C'est en
et
rumeur,
ça, c'est
ils
très,
sont
très
pas
bien.
Encore, ils le seront. En gros, l'idée c'est qu'ils ont annoncé non seulement les prix resteront comme ils sont pour le gold, mais en plus certains jeux nécessiteront plus le gold, je crois que c'est les jeux qui sont free to play. Donc
les Fortnite, les Rocket League, voilà.
C'est bien. Et là, pour le coup, c'est Microsoft qui s'aligne sur ce que fait déjà Sony sur certains jeux. Pas sur tous, mais sur Rocket League, par exemple, il laisse Psyonix faire ça gratuitement. Donc, c'est opt-in pour ou c'est peut-être une négociation, peut-être directement avec Sony pour que ça se fasse. Mais en tout cas, c'est possible. Pas sur tous les jeux, mais c'est possible chez Sony. Et Microsoft va s'y mettre également. C'est bien, mais... Ça se voit d'autant plus que c'est quelque chose qu'ils vont faire dans les prochains mois, que c'est un truc qu'ils annoncent simplement parce qu'ils avaient déjà prévu de l'annoncer, que c'est déjà en négociation / en préparation d'un point de vue technique, et qu'ils se sont dit « Bon, bah on va déjà griller cette cartouche-là pour essayer de récupérer un petit peu de bonne foi et un petit peu de crédit auprès des gens. » Ça sent quand même le truc balancé en mode « Ouh, on doit faire du damage control, il faut qu'on donne un biscuit. » Mais c'est positif néanmoins, et je serais heureux de pouvoir jouer à Rocket League sur Xbox sans avoir à payer pour le gold. J'enlève 2 trucs, tant qu'on parle du gold et tant qu'on parle du Game Pass. Le Game Pass aujourd'hui est à 18 millions d'abonnés au dernier compteur, ce qui est beaucoup. Il était de 10 millions en avril 2020, donc on est en un peu moins d'un an à quasiment doubler la base de gens qui payent Game Pass, ce qui est quand même impressionnant. Et c'était à 15 millions d'abonnés en septembre dernier. Le revenu global de la marque Xbox est en augmentation trimestrielle de 51%. Évidemment, le lancement des nouvelles consoles n'y est pas pour rien, mais purement pour Microsoft, à l'intérieur de Microsoft, c'est une vraie bonne dynamique. De manière purement anecdotique, j'ai l'impression de plus facilement maintenant trouver sur les boutiques des Series X, en tout cas en Suisse, que des PS5. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut juste dire que Microsoft arrive mieux à en produire ou si ça veut dire que Sony en vend plus. C'est encore, à mon avis, trop tôt pour le dire. Mais pour Microsoft eux-mêmes, ça semble être une bonne dynamique. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, vu de France.
Ben, si, plutôt pas mal. Surtout que j'ai l'impression, enfin, moi, je trouve que la visibilité actuelle est quand même beaucoup plus faible pour eux. Mmh. Et comme d'habitude, après, c'est la vue des Français, parce que, comme on le disait justement, PlayStation est une marque beaucoup plus forte. J'ai l'impression qu'Xbox, depuis la Xbox One, est complètement troisième et vraiment à la queue du peloton, quoi, et qu'on a du mal un petit peu à avoir une visibilité. Mais alors, effectivement, si les revenus sont en train d'augmenter tout ça, si les abonnés augmentent, peut-être simplement que je côtoie plus le même genre de profil de joueurs dans mon quotidien. Mais moi, je le ressens pas, en tout cas. Je sais pas si tu le ressens autour de toi, s'il y a plus de joueurs ou pas.
Ce qui est assez paradoxal, je trouve, du côté de la marque Xbox, c'est qu'il y a très peu de jeux inédits aujourd'hui sur la nouvelle génération. C'est aussi le cas sur PS5, hein, mais il y en a encore moins, à mon avis, sur Xbox Series. Et je me demande à quel point est-ce que les jeux multiplateformes plus le Game Pass peut quand même servir à booster l'attrait pour la console. Et ça se verra, je pense, dans les prochains mois quand on aura des chiffres un peu plus détaillés entre les deux consoles. Ça reste vraiment à voir. Mais en l'état, pour moi, c'est le truc qui fait que même si on en a pas mal parlé, même si en soi, ces consoles-là, plus on voit des jeux multiplateformes, plus on trouve qu'elles sont plus ou moins dans un mouchoir de poche d'un point de vue technique, donc aucune va être vraiment gênée. Il y a un vrai plaidoyer qu'on peut faire pour le Quick Resume, d'ailleurs, comme fonctionnalité centrale sur la console, qui la justifie par rapport à une PS5 aujourd'hui. Donc tout ça fait qu'elle a des arguments pour se défendre, mais qu'on est vraiment en eau trouble et qu'on n'arrive pas bien à voir, en fait, où effectivement où elle en est. Je me pose pas mal de questions de ce côté-là, donc honnêtement, affaire à suivre. Honnêtement,
mais tu vois, par exemple, autour de moi, alors je sais que c'est pas un exemple à prendre, c'est jamais un exemple à prendre, mais moi-même, ça m'interroge. Je connais plus d'une dizaine, d'une douzaine de gens qui ont acheté une PlayStation 5, oui, ou qui l'ont précommandée. Je ne connais strictement personne autour de moi qui a une Xbox Series XS. Vraiment personne.
En fait, moi, je ne connais personne qui a une Series XS qui n'a pas aussi une PS5.
Ouais.
Ce qui est assez révélateur, tu vois. Alors je vois, je connais, dans le sens, j'entends parler ou font partie de mes fréquentations, de mes acquaintances, des gens qui n'ont qu'une PS5.
C'est
délicat. C'est délicat de ce côté-là. Après, c'est peut-être uniquement notre entourage. Puis on parlait tout à l'heure du fait que la France et peut-être même au-delà de la France, la francophonie est une terre assez pro-Sony. C'est peut-être simplement le reflet de ça et pas forcément le reflet de toutes les ventes au niveau européen ou au niveau mondial. C'est trop tôt pour le dire. Et encore une fois, avec les problèmes de production qui vont s'étendre pendant un bon moment, on n'est pas sorti de l'auberge pour savoir véritablement au-delà de l'offre, où est la demande, comment quantifier la demande en matière de console. On va terminer cette actu avec Snowtopia. Qu'est-ce que c'est que Snowtopia ?
Alors, Snowtopia, de son vrai titre, enfin son titre long, Snowtopia Sky Resort Tycoon, donc du coup, tu as pu comprendre ce dont il s'agissait, c'est un tycoon. Donc, tycoon, vous savez, c'est ce
mot japonais. Tu gères un parc qui...
Oui, alors tu gères un Sky Resort, donc une station de ski.
Oui.
Donc, tycoon, vous savez, donc c'est ce mot japonais qui désigne, donc d'origine japonaise, qui désigne justement les leaders, les manias des affaires, qui du coup, on avait tous ces jeux tycoon, roller coaster tycoon, tout ça à l'époque, on savait que ça allait être un jeu de gestion. Donc, c'est un jeu de gestion, tu t'occupes d'une station de ski, sauf que c'est un jeu de gestion sans argent. Il n'y a absolument pas d'argent et qui est entièrement basé en fait sur la satisfaction de tes visiteurs, de tes clients et une gestion RH, genre tu as le droit à avoir tant d'employés, il faut que tu les dispatches un petit peu partout dans les différents équipements. Et tout est question d'optimisation, avec une optimisation physique véritablement, puisque tu dois gérer tes pistes de ski, etc., avec leurs différents taux de difficulté. Et donc, tu dois faire attention au tracé. Et donc, c'est un jeu qui se joue véritablement avec la physique, ce qui est extrêmement intéressant. Et les contraintes de temps, parce qu'il faut évidemment que tes remontées mécaniques puissent faire remonter autant de personnes assez rapidement. Il faut savoir bien placer les pistes, éviter les embouteillages, tout ça, et proposer quand même une variété de pistes. Donc, en fait, sans argent, ils ont réussi à faire un jeu qui n'est pas du tout exemple de défi, bien au contraire, et qui propose justement des façons de réfléchir au jeu de gestion différentes, ce que je trouve très intéressant. Alors, c'est un jeu qui est développé par T42 et conçu par Julien Barbe. Donc, je pense que c'est un jeu français, hein, si j'en crois à tout le générique. Et franchement, si vous aimez les jeux de gestion et que vous voulez une expérience différente de ce à quoi on est habitué, gestion de ressources, gestion d'argent, etc., Eh bien, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est que de l'accès anticipé, donc il y aura encore plein de nouvelles choses. Mais la petite approche que j'ai eue jusque-là est plutôt prometteuse. Et je vous invite au moins à regarder voilà, des vidéos, à vous renseigner, voir si ça peut vous intéresser. Parce qu'à mon avis, il faut surveiller, parce qu'il y a vraiment de très très bonnes idées.
Très bien. Je vais juste te poser la question par rapport à l'absence de cette variable argent. C'est commun ou ça arrive dans les jeux tycoon, type tycoon, ou est-ce que c'est vraiment un truc complètement unique ?
Et alors unique, je saurais pas te dire, mais de tête, c'est très très rare parce que d'une manière ou d'une autre, tu es au moins habitué à gérer une ressource. Hein. Mm. Par exemple, dans Banished, autre exemple, t'as pas d'argent en tant que tel, mais forcément, tu dois faire attention à tes stocks de nourriture, à tes stocks de matériaux pour construire, etc. Mm. Là, c'est pas le cas du tout. Là, tout est fonction du temps, en fait, finalement. T'as quand même de la recherche pour avoir de nouveaux bâtiments, etc. Mais tout est basé sur la satisfaction client et je trouve que c'est une façon très saine en fait finalement d'aborder les problèmes, alors peut-être pas réaliste effectivement, mais qui vraiment te pousse à réfléchir autrement. J'ai pas d'exemple donc de jeux comme ça sans argent de gestion, peut-être dans certains jeux mobiles tu vois qui ont un gameplay différent, un peu plus light. Mais là, le gameplay de Snowtopia est pas du tout light. Et honnêtement, quand j'ai dit un jeu sans argent et tout, ça va être relou, va placer des trucs, genre rendre les gens contents, eh ben, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que vraiment, chapeau.
Bien. Eh bien, j'ai pas grand chose à ajouter parce que malheureusement, c'est pas ma cam. Et du coup, on va clore cette actualité en passant. Eh bien, non, pas au courrier, vu qu'il n'y a pas de courrier aujourd'hui. On n'a rien reçu de particulier. On passe tout de suite. À la fin de cet épisode, voilà, on a fait le tour du programme du jour pour la cartouche. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, puisque l'émission sort un vendredi sur 2 en podcast. Vous pouvez nous écouter en direct un jeudi soir sur 2, dès 20h sur le Twitch de notre maison, Blueprint, twitch.tv/blueprintpm. Il y a également un bouton en direct sur blueprint.pm, notre site internet, qui vous permet de voir également tout ça. Si vous venez d'écouter la cartouche pour la première fois, bah merci, vous pouvez vous abonner en podcast pour ne manquer aucun épisode. Après le générique de fin, restez pour l'after show où on bascule en mode détente et on discute pour quelques minutes de plus. Vous pouvez retrouver Lou sur Twitter, YouTube et Twitch @AlexLeServeur. À quoi est-ce que tu joues en ce moment sur ta chaîne?
Alors en ce moment je joue à There Is No Game, donc je vais vous en parler juste après, à Snowtopia bien évidemment, et puis The Movies, il y a plein de... Voilà, entre rétro et actualité finalement.
Très bien, merci.
Tradition et modernité.
On peut donc te retrouver sur tout ça et voir un peu le gameplay de ta part sur ces différents canaux. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter @YannRDR. Twitch, je fais une pause pour le moment, je réfléchis à ce que je veux faire ensuite avec la plateforme. Sinon, eh bien, je parle aussi de jeux vidéo dans le podcast Le Player Club, qui reviendra d'ailleurs, je peux vous le dire, le 15 février, si ma mémoire ne me fait pas défaut, pour un épisode consacré à Hades, avec 4 invités. Et je parle aussi de tech dans le podcast Tech2 qui a déjà repris. Allez, à très vite. Ciao, ciao.
Salut.
Nous passons à l'after show. Et
j'ai l'impression que j'ai parlé super méga vite dans cet épisode. Je sais pas si tu l'as
moi aussi un petit peu, mais je crois que c'est le côté
était super excité.
C'est le côté excitation, je pense. J'espère, chers auditrices, chers auditeurs,
c'est le côté Scott Pilgrim,
que vous êtes passés à 0,75% sur vos applications de podcast, ou 75% de vitesse de lecture. Je pense que ça doit être plus pratique pour vous. Je voulais parler.
Je pense que c'est aussi la première fois qu'on enregistre depuis longtemps. On n'était pas crevés. Enfin, moi, je suis pas crevé aujourd'hui. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que ça m'était pas
arrivé.
Alors,
moi, oui, mais j'ai pris une aspirine juste avant et ça a fait un miracle. Donc, alors que je fais face vraiment au truc blanc comme un cul de Google Docs. Oui, j'ai dit cul, merci les enfants. voilà, je trouve ça incroyable.
Moi, je dors, moi, je suis fatigué, c'est terrible.
J'aimerais qu'on parle de l'action GameStop.
Vas-y, raconte. Enfin, j'ai suivi. Je t'avoue que j'ai pas compris leur méthode. Peut-être que je vais mieux m'expliquer, mais j'ai trouvé ça drôle ou pas, je sais pas.
L'action GameStop, alors en fait, c'est un petit peu en deux temps. GameStop, c'est une boîte aux États-Unis qui vend du jeu vidéo. En gros, c'est le Micromania local. Je simplifie beaucoup, mais c'est ça. Étant donné la lente transition vers le dématérialisé dans l'industrie du jeu vidéo, comme pas mal de grandes boutiques, de grandes chaînes dans ce domaine-là, et d'ailleurs à l'image aussi de grandes chaînes dans le domaine de la vente de vidéos qui a été un petit peu ruinée par Netflix, on pense par exemple à la marque Blockbuster, bah, et GameStop, c'est pas vraiment une industrie excessivement florissante pour eux, se casser un petit peu la figure. Ils ont également été épinglés pour des mauvaises pratiques, notamment vis-à-vis de leurs employés, mais aussi vis-à-vis de leurs clients, en poussant les gens à payer pour des trucs qui sont pas indispensables, comme certains, je crois qu'il y avait certaines assurances, trucs comme ça. Enfin, c'est un peu cradouille, hein, et des programmes partenaires un peu sales aussi. Toujours est-il donc, GameStop n'est pas dans une situation extraordinaire. Et généralement, quand une société n'est pas dans une bonne situation, son cours de bourse, son prix d'action n'est pas non plus génial. Pourquoi ? Parce que normalement, le cours de bourse d'une boîte correspond aux attentes d'un futur proche qu'on a par rapport à ses résultats, par rapport à sa performance, par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport, on va dire, aux possibilités que l'entreprise a pour les mois, les années à venir. C'est pour ça que quand il se passe une bonne nouvelle, généralement le cours monte, et quand il se passe une mauvaise nouvelle, généralement il se casse la gueule parce qu'on estime la valeur de l'entreprise beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse. En fait, je rappelle, hein, cours boursier, c'est simple, c'est à quel prix se vend les actions, c'est-à-dire un petit bout de l'entreprise sur le marché, sur la bourse. Donc forcément, si on estime que ça vaut plus, si on estime que ça vaut beaucoup, si on estime que la boîte se porte bien et qu'elle va même se porter mieux, forcément les gens vont se battre et donc le prix va monter pour en avoir accès à un petit bout. Tandis que quand c'est pas le cas, le prix baisse. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que globalement le cours de bourse de GameStop allait pas très bien. Au début de l'année, avec l'arrivée d'un nouveau patron, il est remonté. Et là, ce qui s'est passé, c'est que des petits malins sur Reddit, dans un subreddit dédié à ça, ont décidé de sauter sur sur les actions GameStop, voilà. Et en faisant ça, ils les ont fait monter, ce qui a attiré l'attention d'autres investisseurs qui les font monter. Et en gros, t'as le truc qui monte, alors qu'en soi, la boîte est pas véritablement un business qui va être florissant dans les mois et les années à venir. Pas vraisemblablement, en tout cas. Donc, t'as cette espèce de spéculation un peu incroyable, vraiment à un stade où des gens, enfin c'est un peu comme le Bitcoin à ce stade, l'action GameStop, tu peux vraiment te faire beaucoup de pognon si t'avais investi beaucoup il y a 3 mois. Quelqu'un par exemple disait avant même vraiment le côté hyper boosté par Reddit, quelqu'un avait acheté l'équivalent de $2000 d'actions GameStop, donc c'est GME, l'abréviation pour l'entreprise, et le 13 janvier cette personne s'était retrouvée avec $18,000. Pas wow. Mal comme opération, ouais. Hein, c'est sympa. Si elle vendait tout de suite au cours du jour, le même jour, le 13 janvier, l'action avait pris 70%.
Là, je regarde justement l'action GameStop depuis début janvier, et elle a pris plus 1600%.
Voilà. Et ça, si tu veux, ça montre à quel point ce genre de choses sont... c'est une excellente illustration du ridicule que peut être le cours de bourse et à quel point c'est manipulable. Ça a des effets concrets et réels. Il y a des cours de bourse qui se pètent la gueule pour des mauvaises nouvelles et du coup ensuite les boîtes derrière qui licencient. C'est un indicateur qui peut avoir des effets concrets, mais c'est pas forcément un indicateur qui lui-même est concret de la situation de l'entreprise, mais beaucoup plus en fait de ce que les gens pensent de l'entreprise, ou pire dans ce cas-là, de ce que les gens veulent faire croire de l'entreprise, voilà. Ou simplement d'une manipulation qui est en cours pour bien rigoler actuellement avec des petits boursicoteurs qui prennent des petites actions par-ci par-là. Donc je trouve toute cette aventure absolument fascinante, et encore une fois met en exergue les absurdités autour du marché boursier, et à terme, disons, soulève à quel point il peut se passer des trucs graves pour des raisons assez peu tangibles en définitive. En théorie, c'est censé fonctionner sur la base de ce que vaut et de ce que va valoir et de ce qu'on s'attend raisonnablement à le niveau de l'entreprise, mais évidemment, t'as aussi des gens qui jouent un petit peu avec, histoire de pouvoir optimiser le pognon. Qui peuvent se faire avec ça. Donc c'est assez triste. J'avais GameStop et puis j'avais autre chose. J'avais, on parle de gestion financière. Telltale, le développeur de jeu, avait été épinglé pour sa mauvaise gestion de ressources d'une part, créative d'autre part, avec un patron qui était assez dictatorial et assez désagréable, et en même temps, sur la fin, une gestion financière assez compliqué, où littéralement la boîte a fermé, ça s'est fait en 48 heures parce qu'il devait sécuriser un nouveau round de financement et ça s'est pas fait. J'ai finalement réussi à regarder le documentaire de Noclip sur justement cette fin de Telltale et sur comment fonctionnait le studio, et c'est fascinant. Regardez si vous comprenez l'anglais et que vous êtes intéressé par la série de jeux qu'ils ont fait sur Walking Dead, sur Batman, The Wolf Among Us. C'est un excellent truc à regarder, tout en anglais, ça dure 54 minutes, le lien sera dans la description de l'épisode. Je vous le recommande chaudement. Voilà.
D'ailleurs, The Wolf Among Us saison 2.
Oui, qui finalement a bien lieu avec une équipe plus restreinte. On attend des nouvelles à ce sujet.
Ça t'emballe, toi, tu le...
En théorie, oui, mais vu que c'est plus complètement la même équipe et que c'est plus les mêmes moyens, je me demande ce que ça va donner. Mais là, actuellement, c'est Ad Hoc Studio, si je comprends bien, qui est dessus. On verra.
Je sais pas si ça va encore marcher sur moi, ce genre de jeu, en fait, aujourd'hui. Tu vois, est-ce que finalement, là aussi, le temps n'aura pas eu certains... Parce que c'est vieux, quand même, tout ça. Je me souviens, j'étais encore à Lille quand je les faisais, il me semble. Même quasiment sûr. Donc, ouais, il y a au moins 6-7 ans, Walking Dead, non ?
Oui, ça doit. Walking Dead Telltale, ça date maintenant. Ah non, j'ai toujours pas fait les deux dernières saisons que je vais bientôt faire. Bientôt, si j'y arrive. Mais normalement, l'idée pour moi, c'est que je termine Persona 5 et ensuite, je remplace ce côté très narratif par justement des jeux comme ça que j'ai en stock. Faut aussi que je me fasse Life is Strange 2. Donc, je vais les faire. Mais en attendant, ouais, c'est curieux. Moi, j'aimerais bien le faire parce qu'en fait, si tu veux, tu me dis spécifiquement Wolf Among Us 2. Oui, pour celui-là, parce que Wolf Among Us est clairement celui que j'avais préféré. Ouais. De tous les details.
Ouais, clairement, j'aimais beaucoup l'univers. Je suis assez content de voir la suite. Mais je crois que le genre, tu vois, là c'est un peu la Scott Pilgrim finalement. Est-ce que 10 ans plus tard.
C'était 2012, hein, donc c'est qu'il y a effectivement quasiment 10 ans maintenant.
Ouais,
ce que je voulais dire, parce que
ouais,
l'année prochaine
je suis parti en 2013, donc ouais, c'est énormissime quoi.
Faudra qu'on fasse une rétro dessus l'année prochaine d'ailleurs, ça vaut le coup.
Carrément.
Mais bref. Toi, tu vas me parler de The Medium. On en avait parlé vaguement dans le Tu veux pas la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux dire dessus?
Non, mais j'ai juste lu les tests et le jeu m'intéresse de plus en plus pour la simple et bonne raison qu'il a pas l'air du tout orienté action. Il a vraiment orienté plutôt justement sur l'ambiance, sur l'atmosphère.
Oui, vraiment
etc.
exploration et QTE.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un jeu à la The Evil Within, que j'ai bien aimé malgré tout. Mais moi, on me proposerait plutôt un jeu à la The Evil Within sans tous les combats, tous les trucs machin et tout relou où tu meurs. J'arrive à un âge où j'ai pas envie de mourir, dans les jeux et dans la vérité. Enfin, encore moins que d'habitude. Et l'idée de devoir recommencer des passages parce que tu t'es fait niquer par un monstre que t'as pas réussi. C'est pas forcément ce que j'attends d'un jeu d'horreur, tu vois. J'ai d'excellents souvenirs de Project 02, donc Fatal Frame, ce jeu d'horreur japonais excellentissime que j'avais adoré et qui, pour le coup, mettait pas trop l'emphase sur les combats ou du moins avait une approche du combat qui était assez originale en plus. Mais il y avait pas des monstres, tu faisais pas harceler par des monstres comme tu peux l'être parfois dans The Evil Within. Ouais. Donc là, pour le coup, on est plus dans l'exploration, quelque chose de psychologique, finalement un peu à la Silent Hill, on pourrait dire. Et ça me botte plutôt pas mal après tous les revirements action auxquels on était habitué, notamment à cause de Resident Evil, hein, qui a vraiment évolué de ce côté-là. Ça me botte pas mal. Et pour le coup, justement, j'enchaîne avec le trailer de Resident Evil Village qui a été révélé avec la fameuse grande dame. Donc cette dame, je sais pas comment elle mesure du coup, cette dame immense, dame Dimitrescu je crois, avec ses filles.
Je vais vérifier, je vais voir si l'information est en ligne.
Je crois que c'est Dimitrescu, qui est ce côté très suranné qu'on trouve de façon très récurrente d'ailleurs dans Resident Evil. On l'avait déjà dans le 4, des choses un petit peu plus anciennes que ce que la réalité le voudrait en tout cas, mais là elle téléphone avec un vieux téléphone, on dirait un peu qu'elle est sortie du début du 20e, Tu sais, les vieux téléphones à cadran, tout ça.
C'est effectivement Dimitrescu et elle mesure 2,44 m d'après l'estimation qui a été faite sur la base d'une hauteur de cadre de porte par le site gamehunt.com. Voilà.
D'accord. Parce que tu la vois qui se penche vraiment beaucoup pour passer. À mon avis, elle est quand même un petit peu plus grande que ça encore, mais c'est un personnage très élégant. Ça fait vraiment femme aristocrate, on va dire, début du 20e. C'est fascinant et moi ça me plaît énormément et je suis extrêmement frustré parce qu'il y a une démo actuellement qui est exclusive à la PS5 et donc je peux pas la faire, mais toi tu peux.
C'est vrai, et j'ai envie d'y jouer, et c'est téléchargé sur ma PS5, il faut juste que je la fasse. J'ai regardé, et Kotaku pense également que c'est 2,40 m, pour madame. Donc,
le
consensus journalistique de la presse spécialisée est qu'elle mesure 2,44 m. Voilà.
Je prendrai un mètre pour voir combien ça représente par rapport à moi, mais c'est vrai que ça me ferait quand même très peur.
J'ai pas envie de faire Resident Evil Village parce que c'est un Resident Evil, mais, et je dis ça simplement parce que ça fait peur, mais je veux quand même noter que je veux le faire justement pour l'aspect démo technique, et c'est aussi pour ça qu'il est distribué, c'est pour le côté regarde comment c'est beau, et j'ai vraiment envie de voir comment c'est beau en fait, donc et de le voir sur ce hardware et de voir d'ailleurs si la machine souffre ou pas pendant que tu y joues. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est marrant qu'on parle de cette démo là parce que j'ai fait une autre démo aujourd'hui, enfin quand je dis fait une démo, j'ai joué pendant 5 minutes. C'est la démo de Balan Wonderworld, qui est sauf erreur le nouveau jeu du créateur de Sonic Wonderworld. C'est un lien, voilà, c'est Yuji Naka qui le fait pour Square Enix en tant qu'éditeur. Le jeu, j'ai un peu joué à la démo sur Switch, c'est catastrophique, c'est 20 images secondes au mieux, c'est horrible. Et en plus le gameplay est mou. Je vais faire la démo aussi sur PS5 parce que je veux voir justement si c'est un peu mieux, mais c'est vraiment moche. Et la VF est extraordinaire parce que le nom du premier chapitre dans le jeu, c'est l'homme qui s'insurge contre la tempête. Non, pas l'homme qui s'élève contre. Non, l'homme qui s'insurge devant la tempête.
C'est joli.
Contre la tempête. Oui, non, c'est assez casse-figure comme trad. C'est dommage parce que Balan Wonderworld, dans le trailer où on voyait pas de gameplay, ça avait l'air sympa. Et c'est bizarre quand j'y joue, c'est beaucoup.
T'as les moins.
Bon, mais du coup, parle-moi d'un
là,
bon jeu.
Là, pour le coup, pour revenir un petit peu à Village, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on. On part sur un autre type de folie, tu vois. C'était avant, on avait le droit à tu sais, des gens un petit peu bizarres. On avait cette espèce de gens chelous, j'allais dire des rednecks, mais pas vraiment. C'est pas vraiment des rednecks dans le set. C'est plus des, enfin, un petit peu les bouseux chelous qu'on pouvait avoir déjà dans Resident Evil 4.
Ouais.
Un peu étrange, une espèce de famille consanguine. Et là, on part au contraire sur le côté très aristocrate. Avec
folie des grandeurs, en quelque sorte.
Une folie des grandeurs et une folie... elle parle de cérémonie, il y a un truc mystique, un truc de secte,
oui,
qu'on retrouve aussi quelque part dans RE4.
Un côté presque sorcière, voilà. Oui.
Il y a quelque chose qui est passionnant. Ça m'a évoqué légèrement Blair Witch. Enfin, il y a un côté rituel, machin. Ouais. Donc, vraiment, ça me fascine et j'ai vraiment très envie. Et là, ça fait très longtemps que je ne suis pas tombé sur un bon jeu d'horreur. Donc, entre The Medium... et ça, je pense que cette année, je vais essayer de me faire peur. Il faut que je trouve le temps de jouer à The Medium. Mais j'ai déjà trouvé le temps de jouer à There Is No Game. Donc, alors, je vais essayer d'en dire le moins possible parce que pour moi, ça me paraît très important de faire le jeu sans rien savoir.
Ce qui est un conseil très The Stanley Parabolien.
Que je n'ai pas fait.
Ah,
mais qui
ok.
Mais qui pourrait s'en rapprocher peut-être. Oh. Parce que, mais comme je n'ai pas fait.
Okay.
Et je ne sais très peu de choses dessus. C'est un jeu qui va être très méta et on va dire c'est un jeu d'énigmes point and click de manière classique, mais très très méta et qui force à réfléchir vraiment de manière ça qui est bien, c'est que c'est logique mais comme on a un niveau plus élevé par rapport au classique des jeux vidéo, mais dès le début c'est assez bien et en même temps c'est très drôle. La manière dont l'aide est intégrée, tu es accompagné par une voix off qui est constante et qui par moment, quand ça fait un petit moment que tu bloques, va donner un indice, mais pas genre « Ah, tu devrais faire ça !» ça va plutôt être dans la façon dont, parce que le, j'essaie de pas en dire, c'est assez difficile. Mm. La voix off en parle de manière très premier degré, donc dans le jeu, mais tu sais, tu entends en fait l'indice dans ce qu'elle dit,
d'accord,
mais de manière détournée, ou des fois c'est un petit peu voilé, il faut essayer de le comprendre, mais je trouve qu'il y a un espèce d'oignon comme ça de réalité qui est extrêmement bien fait, extrêmement prenant, et enfin c'est hyper inventif, c'est vraiment hyper inventif, tout en se moquant en plus de beaucoup de codes des jeux vidéo, de plusieurs types de jeux vidéo, vraiment plusieurs, de l'objet jeu vidéo, et pas seulement d'ailleurs, de la réalité aussi, de plein de concepts par moment. C'est brillant, et vraiment il faut le faire sans chercher, parce que sinon tu risques d'être un peu pas déçu, mais ça fait partie du plaisir, la découverte de l'univers du jeu. C'est vraiment primordial.
Il est sur macOS aussi. En fait, j'en ai entendu parler lors de la sortie de Wrong Dimension, qui est sorti plus récemment, qui est sorti l'année dernière. Mais donc là, tu parles du There Is No Game original.
Non, je parle de Wrong Dimension.
Ah, The Wrong Dimension. Ok.
Et parce qu'il y a un jeu original en fait.
Je crois. Je veux pas dire de bêtises.
Il y a deux jeux en fait, du coup.
Ouais. Apparemment.
Jeu de 2020 de Dromia Pixel.
De 2015, je crois, pour une version Game Jam.
Mais en fait, je pense que c'est simplement la réécriture de l'époque. Il a été inspiré par le précédent jeu gagnant du Game Jam de 2015, Valorant Game.
Ok. Voilà. Et ben, je vais le mettre dans ma wishlist, je pense, sur Steam.
Pascal Camille Sotos. Le nom me dit quelque chose.
Et me l'acheter bientôt, parce qu'en plus, il est disponible sur macOS, apparemment. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tu m'as bien saucé dessus.
Ah ouais, non. Franchement, je le conseille. Et j'ai rarement vu un jeu aussi intelligent sur l'objet jeu vidéo et dans la résolution des énigmes. Waouh. Franchement. Il y a plein de fois où je me disais, oh, qu'est-ce que c'est brillant. Et des fois, c'est très très dur, hein, par moment. Et en même temps, tellement logique.
John Abraham qui dit Wrong Dimension est une version amplifiée du jeu Game Jam. Ok. Bah, en fait, c'est marrant parce que les parallèles avec Stanley Parable, du coup, sont énormes. Parce que Stanley Parable est à la base un mode d'Half-Life 2 qui a été ensuite porté en jeu complet. Et Dr. RK qui dit tout ce qu'il faut savoir sur Stanley Parable, c'est qu'il faut y jouer. Oui, alors, à force depuis 6 ans maintenant, je crois, ça devient un petit peu surfait. Je l'aime beaucoup, hein, mais c'est juste que. On connaît ses artifices, mais oui, totalement. Aujourd'hui, quand je repense à Stanley Parable, j'ai plus vraiment le même plaisir pour moi. Le plaisir que j'ai avec Stanley Parable, c'est si je vois quelqu'un d'autre y jouer et de voir comment est-ce que la personne réagit et quel
choix
il ou elle prend.
C'est exactement ce que j'ai dit aujourd'hui pendant le stream de There Is No Game. J'en parlais avec John Abraham justement qui était présent et il me disait, je me lasse jamais de voir les let's play de ce jeu. Et je dis, mais moi c'est pareil, je pense que j'aurais envie de voir des let's play, voir comment les gens arrivent à comprendre les mécaniques, tout ça.
J'ai tellement hâte de te voir jouer à Stanley.
Moi, je le tenterai. Je le mets dans ma longue, longue liste de jeux.
Effectivement, c'est un bon jeu en stream, parce que c'est un bon jeu auquel réagir. Voilà.
Et franchement, il y a des choses. Là, on a fini l'épisode sur un truc vraiment cool.
Oui.
Le jeu surprend tout le temps.
Okay.
À chaque instant.